Donc, je rappelle deux, trois choses qui t'a rabâché. Ça permet de remettre les choses en perspective. La question de l'étranger chez Platon est à la fois centrale et invisible, si on peut dire. Centrale parce qu'elle traverse bon nombre de ses livres. Ce qui fait que ça crée un problème de méthode, c'est qu'il faut aborder normalement beaucoup de livres de Platon. Mais en même temps, il n'y a aucun des livres ou aucun passage important qui traiterait en tant que tel comme objet de pensée de la question des étrangers. Donc c'est quelque chose qui est totalement disséminé un peu partout. D'où une difficulté réelle. L'autre difficulté, je le rappelle, elle est liée au fait que Platon évoque la question de l'étranger selon différents niveaux de discours, différents registres discursifs, ce qui du coup peut être l'objet, et ça a été fréquemment ça, de contresens, de malentendus. Si on situe toutes les affirmations de Platon ou les propos de Platon sur l'étranger sur le même niveau d'analyse, ce qui est totalement faux. Donc je rappelle les trois niveaux de discours. Il y a un premier niveau qui est plutôt factuel, voire anthropologique, où au fond Platon décrit ou descriptif, où Platon décrit la situation, l'état des lieux à Athènes et dans la Grèce. Et ici ou là, il glisse quelques affirmations personnelles. Mais c'est avant tout, je dirais, une approche ethnographique, presque. Il y a un deuxième niveau de discours, par contre, qui est beaucoup plus prescriptif. Donc Platon énonce des prescriptions, ou on peut dire encore normatif. C'est-à-dire que normatif, il évoque quelles peuvent être les règles, les normes, les lois qui doivent régir le rapport à l'étranger. Dans les deux sens, d'ailleurs, soit du point de vue de l'accueil de l'étranger dans la cité, soit du point de vue du citoyen athénien qui part à l'étranger. Donc ça, c'est le second niveau qui est mis en perspective dans certains des livres autour d'une question pour Platon importante. Dans la cité idéale, la cité des gardiens, et vous savez que chez Platon, souvenez-vous de la République, les gardiens sont les citoyens par excellence. Donc dans la cité des gardiens qu'il imagine, c'est la cité des magnètes, à certains endroits, ils sont nommés magnètes, qu'il imagine en Crète, installés en Crète d'ailleurs. Donc quand il évoque à grands traits ce que peut être cette cité idéale des gardiens, évidemment le rapport à l'étranger est abordé de façon assez précise à différents moments. Mais donc là, on est dans ce registre de discours normatif ou prescriptif, où Platon énonce des lois ou prend position par rapport aux lois existantes à Athènes. Et le troisième niveau auquel il va nous falloir accéder très vite, parce qu'au fond, c'est le plus intéressant, et il y a vraiment un passage déterminant et d'une grande beauté de pensée, en fait. C'est le niveau critique ou réflexif où Platon donc s'interroge vraiment sur le bien-fondé du rapport à l'étranger tel qu'il peut être pensé dans les lois, tel qu'il peut être pensé dans la pratique, et il remet en cause d'ailleurs certaines de ses positions. Cela, on le retrouve particulièrement, mais pas uniquement, dans un livre politique ou la politique. Et puis aussi un peu dans Le Sophiste, qui est un livre consacré, comme le nom l'indique, à une critique des sophistes. Les sophistes, on pourrait dire que c'est l'équivalent, mais en plus doué quand même, de nos hommes politiques actuels, quoi. C'est-à-dire, les sophistes sont ceux qui maîtrisent l'art oratoire et qui développent un discours apparemment logique, mais en fait qui est truffé de faux syllogismes, d'erreurs de logique et qui sont des discours qui ne font que renforcer la doxa, c'est-à-dire l'opinion toute faite. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que à Athènes, en tout cas ceux que Platon évoque, la plupart des sophistes étaient des étrangers à Athènes, des métèques pour beaucoup d'entre eux. Métèque étant, je le rappelle, un statut valorisé, hein. Je rappelle ça parce qu'aujourd'hui, métèque, avec ta gueule de métèque, c'est très, très dévalorisé, très négatif. Du temps d'Athènes, le métèque, c'est l'étranger, mais qui a un statut réglementé, précis, défini par la loi, qui lui confère des droits, et aussi des devoirs, mais des droits, et une forme de protection. Par contre, la plupart du temps, les étrangers, qui étaient plutôt des barbarophones, étaient des esclaves. Donc l'esclave, comme vous le savez, à Athènes, n'a pas de statut. Les esclaves étaient admis pour faire tourner la machine. Donc les esclaves, on ne les chassait pas à l'étranger. C'est ce que j'ai évoqué l'autre fois qui est important, c'est qu'au fond, Platon considère qu'il est nécessaire d'avoir des étrangers dans la cité pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le citoyen n'étant pas habilité à travailler, il faut accueillir des esclaves, parce que son métier, c'est d'être citoyen, hein. Il faut accueillir des étrangers, donc soit des métèques qui exerceront des métiers nobles dans l'artisanat et le commerce, essentiellement, et donc qui ont un statut, soit les esclaves, qui sont l'équivalent des OS, si on veut bien, à ce moment-là. C'est-à-dire des gens qui fournissent leur force de travail aussi bien dans les champs que dans l'artisanat. Vous connaissez le fameux exemple de fondateur d'un courant philosophique très important, qui est l'épicurisme, Épicure. C'est un esclave. Après, il y a les parcours individuels, il y a les parcours par l'intelligence. Tu vois, au départ, souvenez-vous de ce que j'ai dit, un esclave, c'est un étranger qui se fait kidnapper. Donc ça peut être un intellectuel, hein, qui se fait kidnapper sur le chemin et qui va du coup se retrouver vendu comme esclave, avec ses connaissances ou pas. Donc à partir de là, il y a parmi les esclaves des gens de grande pensée et qui peuvent jouer de cela compte tenu que pour les Grecs et notamment à Athènes, la pensée c'est important. C'est pas comme aujourd'hui. Du coup, grâce à leur puissance de pensée, ils pouvaient effectivement accéder à certains statuts, ce qui n'enlevait pas le fait qu'ils restaient esclaves. Mais alors, après, certains esclaves, ça dépend des périodes, peuvent être affranchis. Il y a la logique de l'affranchissement qui existe. Affranchis, c'est-à-dire on leur redonne la liberté. Mais tout ça, c'est quand même des exceptions, faut pas se leurrer, ça reste des exceptions. L'immense majorité des esclaves étaient esclaves, point, quoi. On ne leur reconnaissait pas de droit et ni de statut. Par rapport aux Athéniens et à Platon, on est dans une problématique de créer une cité sédentarisée. Une cité sédentarisée, et on l'a déjà abordé les fois précédentes, Platon est constamment dans la contradiction, ou plutôt le paradoxe. C'est-à-dire que cette cité sédentarisée qui va, par exemple, réfléchir sur la question de l'étranger dans les deux sens, c'est-à-dire d'accueillir l'étranger ou d'aller à l'étranger, cette réflexion qui vise à consolider la sédentarité, c'est-à-dire la cohérence d'une cité sédentaire, cette réflexion est le plus souvent mise en œuvre dans les livres de Platon avec un élément d'étrangéité. C'est-à-dire que, par exemple, Platon fait surgir la figure de l'étranger comme personnage central qui se substitue à Socrate. On va le voir dans un texte. C'est-à-dire, le personnage socratique est nommé l'étranger. Et par exemple, dans le Politique, on va aborder ce texte à la fin qui est essentiel. Socrate est un jeune homme. C'est encore le jeune Socrate qui est encore approximatif, malhabile, fougueux, impétueux. Et celui qui joue le rôle de Socrate tel qu'on le retrouve dans les livres ultérieurs, enfin ultérieurs, c'est pas chronologique, dans les livres où Socrate devient le Socrate, eh ben c'est l'étranger. Et on retrouve ça à différents moments, c'est-à-dire que pour Platon, c'est comme si la question de la cité, qui régule aussi la question du rapport à l'étranger, ne pouvait être abordée sérieusement que d'un point de vue extérieur, que du point de vue extérieur au cercle de la cité sédentaire. Et c'est ça qui est passionnant. Alors ça paraît comme un paradoxe, mais c'est ça qui est d'une grande richesse, quoi, et qui fait qu'on ne peut jamais enfermer Platon dans des affirmations réductrices et simples du type l'édicte des lois très dures pour les étrangers, comme on l'avait évoqué. Marie-France Sterbois avait pu le dire pour justifier de son combat contre la loi à l'époque Guesso. Et ça, on l'a abordé, j'y reviens pas. Après, ce qui se passe d'un point de vue anthropologique, c'est la question de la guerre. On avait abordé l'autre fois un des livres de Platon important qui est le Ménexène, où apparaît, à travers un éloge funèbre et un discours extrêmement, on pourrait dire patriotique aujourd'hui, un discours extrêmement carré, extrêmement rude contre les étrangers. Mais il ne faut pas oublier que Le Ménexène se situe dans un contexte de guerre. C'est-à-dire que le discours extrêmement dur, c'est le discours de après le traumatisme des guerres du Péloponnèse, où Athènes a été vaincue par Sparte, il ne faut pas oublier, et où du coup la cité apparaît comme menacée dans ses fondements par l'étranger qui ne peut être qu'assimilé à l'ennemi. Donc il y a aussi ce balancement que l'on retrouve chez Platon entre la cité de paix qui, par nécessité de prospérité, d'expansion, etc., doit s'ouvrir à l'étranger, doit l'accueillir, et la cité en temps de guerre où l'étranger apparaît comme l'ennemi dont il faut absolument se protéger. Après, un autre aspect intervient dans tout cela, là je fais que rappeler ce qu'on a pu aborder, hein. C'est la question du rapport à certaines catégories d'étrangers qui sont les navigateurs et les commerçants. Les deux figures allant de pair, hein. Les commerçants qui viennent par voie de mer souvent pour vendre leurs marchandises à Athènes. Il se trouve que Platon, je le rappelle, donc, est extrêmement méfiant à l'égard de l'argent et du commerce tout court. J'avais évoqué l'autre fois, d'ailleurs, qu'on trouve là probablement l'origine du rejet par le christianisme du commerce des marchands et en particulier du commerce de l'argent. D'où le fait que, par exemple, au Moyen Âge, il est interdit de faire le commerce de l'argent. D'où le fait que c'est le seul métier commerçant qui ait pu être accordé aux Juifs, et d'où le fait que par un effet de tourniquet, on ait ensuite reproché aux Juifs d'aimer l'argent et de faire le commerce de l'argent, et que les Juifs étaient tous des banquiers. Stéréotype négatif qu'on a retrouvé jusqu'au XXe siècle, et les nazis, la propagande nazie a largement utilisé cela, et qu'on trouve toujours. Oui. Donc on peut là incontestablement lire une origine platonicienne et grecque plus largement dans cette méfiance et ce rejet du commerce et de l'argent, et d'où le fait que Platon considérait avec beaucoup de méfiance les étrangers qui arrivaient par bateau, qui étaient source de tout danger de déstabilisation potentielle de la cité. C'est pour ça que dans sa cité idéale, Platon évoque l'impératif, rappelez-vous, qu'il faut l'établir le plus loin possible des mers, pour se protéger des navigateurs et des marchands. Le plus loin possible des mers. Alors, ce n'est pas faux, d'ailleurs. Historiquement, on constate que les grandes cités qui sont développées comme ports, c'est des cités où très vite, il y a un mélange considérable de populations et qui sont des cités qui souvent connaissent des évolutions chaotiques, forcément. Alors que ces cités plus continentales, plus fermées sur elles-mêmes, connaissent une stabilité plus grande. Donc on voit qu'il y a deux principes qui s'opposent, qui sont des principes anthropologiques. Je dirais que c'est le principe de l'ordre et du désordre, fondamentalement, qui sont le principe de la fermeture à l'extérieur pour viser une homogénéité de population et le principe de l'ouverture à l'extérieur qui amène la mixité, le mélange, etc. Platon est constamment dans un balancement par rapport à ces deux principes. On ne peut pas dire qu'il préconise unilatéralement l'un ou l'autre, du tout. Là encore, on retrouve cette règle platonicienne que je trouve absolument essentielle, du juste milieu. Platon considère qu'il faut un peu d'ouverture et un peu de fermeture. Il est constamment dans le va-et-vient entre ces deux principes. L'ouverture nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons économiques, et la fermeture garantissant l'homogénéité et la stabilité de l'ordre de la cité. Donc on ne peut jamais le ramener, quel que soit le passage que l'on va lire, à une logique. Il faut toujours entendre chez lui les deux aspects. Et ça, cette position platonicienne me paraît particulièrement importante à méditer dans les temps actuels, quand on voit tout le débat. Qu'il y a un débat chaotique, qu'il y a un débat creux, qu'il y a un débat stérile, qu'il y a un débat grave, parce que il fait tous s'effondrer au degré zéro de la pensée sur les migrants. vous avez une espèce de jeu de théâtre avec deux positions extrêmes, et on n'entend aucun discours qui essaie de penser la dialectique entre les deux. Donc vous entendez ceux qui disent qu'il faut fermer toutes les frontières, il faut remettre en cause Schengen parce que même Schengen est trop permissif, trop accueillant, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Et puis d'un autre côté, vous avez ceux qui, au nom d'un humanisme, disent ben, il faut ouvrir, il faut accueillir, il faut accueillir. Ces deux positions, quand elles se radicalisent, vous constatez qu'elles ne font pas avancer d'un pouce le débat. C'est-à-dire, elles ne permettent pas d'inventer une politique, au sens noble du terme, une politique qui pourrait faire face sur le moyen-long terme à ces énormes défis que sont les défis de la migration et des mouvements de population, défis auxquels on est confronté qu'au début pour le moment. Qu'on soit dans le grand nombre et la grande masse, c'est clair. Et Platon lui-même, bah, rappelez-vous les conférences de Jean-Claude Milner au banquet où il est revenu à plusieurs reprises là-dessus, le grand nombre c'est l'ennemi, et que les Grecs et Platon l'avaient vraiment pensé. Faut un nombre moyen pour faire une cité humaine. Voilà. Bon. Donc qu'on soit dans une ère de masse et de grand nombre, ça c'est indubitable. Cela dit, les bouleversements avec leurs effets chaotiques, anxiogènes et autres, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il faut se méfier du fait qu'on a toujours tendance à considérer que son époque est unique de ce point de vue-là, parce que du temps de Platon quand même, et j'y fais allusion, et du temps d'Athènes, les bouleversements à leur échelle étaient peut-être encore plus catastrophiques qu'aujourd'hui. Du temps de Platon, il ne faut pas oublier ce que je viens de dire avant, que Platon résonne après le traumatisme des guerres du Péloponnèse. Les guerres du Péloponnèse, c'est un bouleversement énorme. En plus, Athènes est vaincue par Sparte. D'autre part, il ne faut pas oublier aussi une autre chose. Alors, je l'accorde, Platon n'en parle pas véritablement. Mais c'est pas pour autant que ça n'existait pas et que ça n'a pas été un bouleversement énorme. La peste, les grandes épidémies qui ont atteint, meurtri complètement Athènes et les cités grecques. Donc, si on additionne guerre du Péloponnèse entre cités grecques et les épidémies, on peut se dire qu'il était dans un environnement pas très stable. C'est-à-dire qu'il faut se garder du fait que souvent on a l'impression que avant c'était plus stable. Aujourd'hui, ce n'est pas stable, je l'accorde, mais avant, ce n'était pas plus stable en réalité. Et que justement, la grandeur de l'effort de penser, c'est de penser les choses graves dans une période instable. Mais c'était le cas de Platon. C'était le cas de Platon. Et que sa vertu et sa méthodologie, c'est à la fois une vertu et une méthodologie du juste milieu, d'éviter l'effort de la dialectique en fait. Pour le dire autrement, je dirais que la leçon de Platon, c'est qu'on ne pense bien que si on tient les deux bouts de la chaîne à la fois. Que si on s'agrippe qu'à un bout, qu'on lâche l'autre bout, c'est foutu. Mais ce que je constate, c'est que certes aujourd'hui, l'instabilité angoissante favorise le fait que dans les discours publics, les gens ne tiennent qu'un bout. Mais c'est pas pour autant que ça excuse quoi que ce soit. Et c'est pas pour autant qu'il faut plus que jamais en appeler à cette dialectique qui consiste à dire « faut tenir les deux bouts à la fois ». Et concrètement, par rapport à la question des migrants en Europe, à la fois, il faut penser l'accueil, et en même temps, il faut penser le maintien d'une loi au sens fort du terme, d'une loi qui doit valoir pour tous et qui doit être sauvegardée, protégée, quels que soient les bouleversements qu'introduisent l'arrivée de l'étranger. Il faut penser les deux à la fois. Plus que jamais aujourd'hui, si on n'arrive pas à ça, on voit les errements de l'Europe. L'Europe, ça va être quelque chose de complètement chaotique. Et ça ne sera plus rien dans quelques décennies. Hein. Il y a un enjeu central sur ces questions-là que Platon doit vraiment nous aider à affronter, à tenir. Et justement, particulièrement parce qu'on est dans un contexte chaotique. C'est, je crois, déterminant. Donc, Platon, clairement, dit entre l'idéal rêvé d'un circuit clos entre citoyens, au fond, c'est l'entre-soi, qui a du bon parce que ça garantit la stabilité de la loi et l'application de la loi, et la réalité qui oblige à s'ouvrir à l'extérieur et à admettre le principe de mixité, il faut naviguer en permanence. Et ne pas considérer que ceci, c'est une contradiction logique. On n'est pas sur ce plan-là. Ce n'est pas une contradiction logique d'affirmer les deux principes à la fois. C'est, je dirais même, le mouvement même de la vie qui doit être pensé. La vie est faite d'ordre et de désordre. J'avais bien antérieurement commenté un vieux livre d'un philosophe, médecin, biologiste en réagissant sur les organisations vivantes qui s'appelle « Entre le cristal et la fumée ». C'est un magnifique titre qui résume bien la chose, où il montre comment, à partir de l'exemple des organismes vivants, on est constamment dans cette dialectique entre l'ordre, le cristal, le principe du cristal, disons, qui poussé à l'extrême est un principe de mort. Et le principe du mouvement, qui poussé à l'extrême, c'est la fumée, est un principe de mort aussi. D'ailleurs, ça part en fumée. L'agitation chaotique des molécules sans régulation, c'est la mort. Mais la cristallisation des molécules qui fait qu'il n'y a plus aucun mouvement, c'est la mort. Et la vie, c'est constamment ce mouvement dialectique, c'est une tension entre les deux. C'est comme la marche. L'ordre stable, c'est la position statique, debout, pieds joints. Le principe de désordre, c'est quand on introduit du déséquilibre, c'est quand on jette une jambe en avant. Mais si l'on jette la jambe en avant, on est dans le déséquilibre qui peut amener la chute. Sauf qu'on ramène l'autre jambe, qui réintroduit un nouvel équilibre. La marche, c'est le principe même de la vie. C'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas théoriser plus là-dessus, mais que ça a intéressé un certain nombre de philosophes, notamment contemporains, de s'intéresser à la marche d'un point de vue philosophique. Parce que je pense que la marche, c'est la métaphore précisément de cette dialectique du vivant qu'il faut penser comme telle entre la loi et le mouvement, ce qui vient contrarier la loi. Donc entre l'ouverture et la fermeture, entre l'accueil de l'étranger et la protection vis-à-vis de l'étranger, etc. etc. Mais c'est une question qu'on abordera justement dans le prochain cycle. La question de la frontière, c'est une question qui est loin d'être si simple que ça. La position naïve, bien-pensante, humaniste, c'est de dire « abat les frontières », mais c'est plus compliqué que ça. Là aussi, on ne peut pas se contenter de dire « abat les frontières », il faut dire « abat les frontières » et en même temps « vive les frontières ». Il faut dire les deux à la fois. C'est l'histoire des murs. C'est l'histoire de la maison, les murs protecteurs de la maison. C'est l'oikos des Grecs qui était très important. La maison, c'est Lévinas qui a beaucoup réfléchi à la demeure, ce qu'il appelle la demeure. C'est la demeure grâce aux murs. C'est ce qui définit un espace délimité qui fait frontière entre l'intérieur et l'extérieur et qui protège de ce qu'il appelle l'élémental, les éléments, quoi, l'élément, l'être, et qui est profondément anxiogène. Et l'humain a commencé par trouver des grottes pour se protéger mentalement. Alors, on pourrait objecter à cela, il y a le nomade du désert. Mais le nomade du désert ne passe pas sa vie à la belle étoile, ça c'est un mythe. La tente a une fonction à la fois pratique, symbolique, anthropologique, essentielle, bien sûr. Et la fête des cabanes dans le judaïsme, Soukhot, c'est précisément quatre murs, enfin un abri, une protection. C'est pas quelque chose qui ouvre sur la grande voûte illimitée de l'univers et sur l'espace illimité de la Terre, au contraire. Platon disait, au bout du compte, cette position de juste milieu que j'évoquais, on peut la résumer dans le fait qu'il disait, il faut à la fois accueillir l'étranger et le contrôler. C'est-à-dire, contrôler, alors, c'est un mot qui n'est pas beau, mais contrôler, ça veut dire définir des cadres, des règles. Et je crois que, voilà, c'est un des défis actuels essentiels pour les décennies à venir. Alors, je pense que ces catégories, d'ailleurs, qui sont reprises jusqu'à plus soif aujourd'hui, intégration, assimilation, etc., insertion, sont des catégories dépassées. Il ne faut pas raisonner en ces termes-là, parce que c'est des catégories de l'ancien temps, si j'ose dire. C'est des catégories qui sont pensées dans le contexte des années 50, 60, 70, 80. Aujourd'hui, il ne faut pas raisonner en ces termes-là. Je crois qu'il faut reprendre la question des lois, pour reprendre le mot de Platon, ou telle que la Révolution française l'a posée. C'est-à-dire que ce qu'introduit et l'État-nation se fonde là-dessus. Ce qui a introduit la Révolution française, mais il y avait du Platon derrière les penseurs des Lumières qui ont inspiré. C'est l'idée que la société qu'on construit, comme tout, a des bases politiques et non pas des bases ethniques, géographiques. Politique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est fondée sur un contrat. Un contrat, en d'autres termes, une loi. Une loi partagée. Ou, ce que pouvait dire la Révolution française aussi, un serment. Un serment partagé, qui définit un cadre délimitant l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est en ces termes-là qu'il faut repenser les choses. C'est-à-dire que, quelle loi aujourd'hui fait sens? Il ne s'agit pas, évidemment, des lois au sens légal du terme. C'est beaucoup plus fondamental, les principes fondamentaux qui unifient autour non pas d'une totalité préexistante et basée sur des critères arbitraires, qui est définie, cette unité, sur une adhésion commune à quelques principes. Ça, c'est la Révolution française. C'est ce qui fonde le meilleur de ce qu'a été l'État-nation. C'est ce qu'a fondé les Hébreux aussi, si on remonte dans le temps, la loi mosaïque. Libre à chacun, chaque matin, librement, de reprendre à son compte la loi, de la faire sienne ou pas. Je crois qu'il faut fondamentalement repenser les choses en ces termes-là. Je propose qu'on n'avance pas plus là parce qu'on va reprendre cette question-là plus tard, parce que c'est une question immense, mais évidemment, c'est des questions qui se posent, quoi. Et c'est ce que Daesh est en train de vouloir montrer à l'Occident tous les jours, c'est-à-dire que vos frontières entre la Syrie et l'Irak, on n'en a rien à fiche parce que c'est vous qui les avez amenées. Et on considère que c'est complètement étranger à nous et que ça ne nous fait pas loi. Ça ne nous fait pas loi. J'ajouterais un autre point avant d'en venir au politique, au livre Le Politique chez Platon. Un autre point que je n'ai peut-être pas évoqué suffisamment les dernières fois. Pour Platon, le souci de l'accueil de l'étranger obéit à un fondement métaphysique et je dirais presque, si le mot avait du sens chez Platon, théologique. Platon considère qu'il y a un dieu des étrangers, Xénos Daimon, ou Xénos Théos. C'est-à-dire que c'est une des figures de Zeus. Il utilise à plusieurs reprises l'expression Zeus Xénios, le Zeus des étrangers. Et de ceci, il déduit quelque chose de précis, de pratique. Si on maltraite l'étranger, Zeus, qui les protège, va se venger contre nous. Et donc, c'est une idée intéressante, quand même. C'est-à-dire que la protection de soi, la protection de nous, passe aussi par le bon accueil de l'étranger. C'est-à-dire que, là aussi, ce mouvement dialectique est très intéressant. Le souci de protection, donc de préservation de la cité contre toutes les forces extérieures de déstabilisation, est louable, est nécessaire, Platon insiste, mais la protection passe aussi par le bon traitement des étrangers. Donc vous voyez, il faut constamment penser ces mouvements en tension et ne pas le penser comme une contradiction dont il faut éliminer un terme pour la résoudre. Dans le même ordre d'idées, je rappellerai une réflexion à partir de Platon et des Grecs de ce grand linguiste philosophe qui était Émile Benveniste, qui a montré comment la proximité entre les mots latin en l'occurrence, latin grec, hostis et hospes, H-O-S-P. Hostis désigne le soldat étranger, l'ennemi, celui qui nous menace directement. Hostis, qui a donné le mot français hostile. Et hospes, ça donnait l'hospitalité, l'accueil. Hospes, c'est l'hôte au départ, l'hôte. Le mot hôte vient directement de cela. Et vous noterez une merveille de la langue française qui est au cœur de cela, c'est que hôte, ça désigne les deux. Et c'est très profond, c'est pas comme cela. L'hôte, c'est celui qu'on accueille et c'est celui qui accueille. Ce qui veut dire que la partie se joue constamment à deux. Constamment à deux. Platon insiste aussi sur un autre aspect qui justifie le bon accueil de l'étranger. Je vous le dis au passage, on ne peut pas tout aborder à fond. C'est le souci de la bonne renommée à l'étranger. C'est-à-dire que la cité qui se comporte mal à l'égard des étrangers, c'est une cité qui va se tailler une mauvaise réputation. Et que ça, c'est mauvais pour la cité. Parce que la mauvaise réputation, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui déstabilise. Et qu'il est important que la cité jouissent d'une bonne réputation à l'étranger, tout simplement aussi parce que la bonne réputation, c'est le respect et c'est aussi une protection. Donc voilà, il y a cet aspect de la dialectique platonicienne qui est aussi intéressant au passage à pointer. Alors la bonne renommée, la bonne réputation en grec, je vous dis deux, trois mots grecs de ce qu'on vient de dire, c'est eudoxia. Donc eudoxia, c'est le même mot que doxa, c'est l'opinion. Et je le souligne parce qu'on le retrouve dans plein de mots, E, c'est EU, hein. C'est le préfixe qui signifie bien, bon, bien, bon. Ce qui fait qu'entre parenthèses, le mot euphémisme a dérivé dans son sens à travers le temps, parce que euphémisme, initialement, c'est ce qui est bien, nommé. Alors que maintenant, il y a un côté presque péjoratif. Mais ça a été une dérive progressivement du sens du mot. Alors, heureux, ça n'a rien à voir. Alors, autrement, les deux principes qui définit les deux logiques de rapport à l'étranger, dans le grec de Platon, c'est l'épimexia d'un côté, ou épimexi, qui veut dire la mixité, le mélange des races, des peuples, etc. Et à l'inverse, le principe de fermeture, de rejet, de fermeture totale, c'est la xénélasie, xénélasia. Bien, attaquons maintenant le texte que je vais vous donner, qui va nous servir de conclusion. C'est probablement, en tout cas pour notre sujet, mais je dirais plus largement, le texte le plus aigu, le plus avancé de la pensée de Platon. C'est un texte qui profondément est une merveille de la pensée. Donc c'est un passage extrait du Politique. Je ne le commande pas d'abord, nous allons le lire ensemble, à voix haute, et au fur et à mesure, ensuite, on le commentera. Donc, le passage fait allusion, évidemment, à une conversation précédente entre les deux protagonistes, qui sont, comme je le disais, l'étranger, qui joue le rôle de Socrate, du vieux Socrate, et Socrate le jeune. La discussion auquel il est fait allusion, la discussion passée auquel il est fait allusion, c'est la division entre les Athéniens et les étrangers, les Grecs et les barbares. Donc, l'étranger. Oui, voilà une division qui atteste au plus haut degré ton empressement et ta vaillance. Évitons pourtant d'être à nouveau victime de cette méprise. Donc, le jeune Socrate est impétueux et empressé. Il va trop vite, en fait. Et l'étranger lui rappelle, faut pas aller trop vite. Socrate le jeune, laquelle ? L'étranger. Ne détachons pas une petite partie en la mettant toute seule face à des parties grandes et nombreuses, et ne la mettons pas non plus à part de l'espèce. Veillons au contraire à ce que la partie représente en même temps l'espèce. Une partie, ben on va le voir, c'est ce que produit une division, si on divise une multitude quelle qu'elle soit, on crée des parties. Et donc l'exigence que pointe là Platon, ou plutôt l'étranger, c'est l'exigence selon laquelle la division doit être juste, et non pas un simple effet arbitraire de langage. Et pour qu'elle soit juste, on voit la règle qui se dessine, il faut que la partie coïncide avec une véritable espèce. Veillons au contraire à ce que la partie représente en même temps l'espèce. Il y a des exemples après qui sont éloquents. Sans doute est-il très beau de mettre tout de suite à part l'objet de la recherche, à condition que l'on tombe juste. Toi, par exemple, tout à l'heure, parce que tu as cru tenir la division, tu as pressé l'argument d'aboutir en voyant qu'il menait aux hommes. Mais en fait, mon cher, faire du travail trop fin ne va pas sans danger. Il est plus sûr de procéder en découpant par moitié, c'est ainsi que l'on a le plus de chances de tomber sur des natures spécifiques. Des genres, des espèces. Or, cela fait toute la différence pour nos recherches. Donc, toute la question qui est posée, quand on divise par les mots, c'est les mots qui divisent, on nomme, un ensemble en attribuant des noms. On va répartir des noms qui vont diviser l'ensemble. On peut parfaitement isoler une toute petite partie de l'ensemble en considérant que ça forme une espèce ou un genre en tant que tel. Mais on est dans l'arbitraire et on risque de mal nommer les choses. Pour Platon, la vérité est la justesse, qui est synonyme de l'exactitude. Et là, il suggère une règle méthodologique pour être sûr de bien nommer les choses quand on divise. La règle, c'est que si on fait des parties égales, on est plus sûr que la division soit juste, c'est-à-dire correspondre à des espèces différentes. Il va prendre un exemple, par exemple, diviser l'humanité entre hommes et femmes, on peut être sûr, donc c'est en gros deux parties égales, que on approche un bien nommé, quelque chose de juste, où les parties qu'on crée correspondent à des genres différents. Voilà ce que suggérait là. Il est plus sûr de procéder en découpant par moitié, et c'est ainsi qu'on a le plus de chances de tomber sur des natures spécifiques. Or, cela fait toute la différence pour nos recherches. Socrate, que veux-tu dire par là, étranger? L'étranger. Il faut tenter de parler plus clairement encore par égard pour toi, Socrate. Il n'est certes pas possible pour l'instant de prétendre ne rien laisser dans l'ombre, mais il faut tenter d'aller un peu plus de l'avant pour atteindre à plus de clarté. Quelle est donc, selon toi, la faute que nous aurions faite tout à l'heure dans nos divisions? C'est bien la question. L'étranger. La même que si, entreprenant de diviser en deux le genre humain, on faisait la division à la façon dont la font la plupart des gens d'ici, en détachant les Grecs comme unité mise à part de tout le reste, tandis qu'à l'ensemble de toutes les autres races, alors qu'elles sont en nombre indéterminé et qu'elles ne se mêlent pas les unes avec les autres, ni ne parlent la même langue. Donc il y aurait d'un côté les Grecs et tout le reste. Et là, ce qu'il va montrer, c'est que cette division, c'est la doxa, c'est l'opinion commune, mais elle ne tient pas. Elle ne tient pas linguistiquement, elle ne tient pas épistémologiquement, elle ne tient pas méthodologiquement. Pourquoi? Parce que c'est une division arbitraire. On isole une petite partie, les Grecs, et tout le reste, on ne se préoccupe pas si ça forme un ensemble cohérent qui répond symétriquement à la définition de la petite partie des Grecs. Or, ce qu'il nous dit là, c'est que tout le reste, c'est totalement hétéroclite. Ils ne parlent pas la même langue et ils ne se connaissent même pas entre eux. Donc, en détachant les Grecs comme unité mise à part de tout le reste, tandis qu'à l'ensemble de toutes les autres races, alors qu'elles sont en nombre indéterminé et qu'elles ne se mêlent pas les unes avec les autres, ni ne parlent la même langue, ils appliquent la dénomination unique de barbares, s'attendant que, à leur appliquer une seule et même dénomination, ils en aient fait un seul genre. Or, l'étranger montre que barbare, c'est pas un genre. Ou encore, c'est comme si l'on se figurait diviser le nombre en deux espèces en détachant le nombre 10 000 de tous les autres. C'est un pur arbitraire qui correspond à des a priori, mais qui n'a aucun fondement méthodologique, épistémologique, aucun effet de justesse. En le mettant à part, comme si c'était une seule espèce, et qu'on prétende qu'à mettre sur absolument tout le reste un nom unique, cela suffit cette fois encore pour mettre à part un second genre du nombre. Or, la division serait, je suppose, mieux faite, on diviserait mieux sur les espèces et en deux, si on partageait le nombre en pairs et impairs. Pairs et impairs, ça constitue deux genres, qui sont plus sûrs que d'un côté de mettre 10 000 et de l'autre côté tout le reste des nombres. Et si on partageait de même le genre humain entre mâle et femelle, tandis qu'on ne mettrait à part de tout le reste les Lydiens, les Phrygiens ou n'importe quel autre groupe que lorsqu'il n'y aurait plus moyen de trouver une division dont chacun des deux termes fut à la fois genre et parti. Ça pose un problème de méthode essentiel pour la pensée. On est là au fondement de ce que veut dire penser. Ce que nous dit Platon, c'est une critique du langage qu'il fait. Le langage commun consiste à utiliser des mots qui désignent des catégories qui procèdent par division. Nommer, c'est diviser. Nommer, il faut avoir conscience que, inévitablement, c'est diviser. Dire que ceci est un tilleul et nommer ceci comme un magnolia, c'est diviser. C'est diviser l'ensemble arbre en deux catégories qu'on nomme par des mots différenciés. Mais tout le problème, c'est qu'il y ait une adéquation entre le langage et les choses. C'est toute la problématique de Foucault, les mots et les choses, qui est reposée là, mais à l'origine. C'est-à-dire que penser, c'est s'attacher à bien nommer, c'est à trouver les bons mots appliqués aux choses, et que le rapport entre le mot et la chose soit le plus exact possible. Pourquoi c'est un enjeu essentiel? Parce que c'est pas sans conséquence, il y va des divisions du monde, des divisions que l'on opère dans le monde par le langage. Et par exemple, la division entre humains et non-humains, à partir de là, entre grecs et barbares. Les grecs étant considérés comme les humains, dans la doxa, dans l'opinion courante, et les barbares, tous les autres, c'est pas des humains, quoi. Donc c'est lourd de conséquences, lourd d'effets. Et penser, penser, c'est interroger les mots qu'on met sur les choses et les divisions à laquelle on procède par les mots et s'assurer de façon critique que les mots nomment bien les choses et opèrent les bonnes divisions. Et les bonnes divisions, ce sont celles où les parties qu'on crée en divisant par les mots sont des parties qui correspondent effectivement ontologiquement, c'est en termes d'être, à des espèces d'être différentes. C'est une leçon magistrale. Entendu comme ça, ça paraît peut-être évident, mais si on réfléchit un petit peu, c'est déterminant. Socrate le jeune, rien de plus juste. C'est déterminant parce que le plus couramment, on tombe toujours dans l'erreur que l'étranger dénonce. Toujours, toujours. Rien de plus juste. Mais comment arriver à discerner plus clairement que les genres et les parties ne sont pas la même chose, mais deux choses différentes l'une de l'autre? L'étranger. Oh, le meilleur des hommes, ce n'est pas peu de choses ce que tu exiges là, Socrate. À cette heure, nous nous sommes égarés un peu trop loin du sujet que nous nous sommes proposés, et tu nous invites à nous égarer davantage. Revenons plutôt en arrière, ce sera plus raisonnable, et pour ce qui est de cette nouvelle question, nous nous mettrons en quelque sorte sur ces traces plus tard à loisir. Cependant, prends bien garde à ne pas croire que cette claire distinction qui a été faite, tu l'as entendue de ma bouche. On voit que l'étranger rappelle à l'ordre Socrate, la bonne pensée suppose de ne pas se disperser. Et ça, on le fait tellement couramment dans les discussions de digression en digression, on ne sait plus au fond de quoi il s'agit. On l'a expérimenté plusieurs fois ici. Et l'étranger dit à Socrate, attends, attends, revenons en arrière, parce que là on s'est égaré, et revenons à notre fil conducteur, on reviendra après plus tard sur les autres sujets. Laquelle? Que l'espèce et la partie sont deux choses différentes. Évidemment, hein, que l'espèce et la partie sont deux choses différentes, c'est ce qu'il faut vérifier comme erreur. Hein, on est d'accord. Je vais y veiller. Chaque fois que quelque chose est considéré comme une espèce de quoi que ce soit, il est nécessaire qu'elle soit aussi partie de la chose dont elle est dite être l'espèce, mais il n'est pas du tout nécessaire que la partie soit en même temps l'espèce. C'est pas nécessaire au sens, c'est pas automatique. Il y a l'histoire mâle et femelle, donc là, les parties correspondent à des espèces, à des genres différents. Par contre, le contre-exemple, c'est 10 000. 10 000 par rapport à tous les nombres, ça n'a pas de sens. 10 000, c'est une partie de tous les nombres, mais ça ne forme pas un genre numérique. Et il donne un autre exemple un peu plus bas, qui est très marrant et qui est très fameux. On va y venir tout de suite. C'est ce que je ferai, l'étranger. Eh bien, dis-moi ce qui vient après. Quoi? Rappelle-moi où nous en étions avant la digression qui nous a égarés et menés jusqu'ici. C'était en effet, si je ne me trompe pas, là où je te demandais de quelle façon il fallait diviser la technique pastorale et où tu m'as répondu avec tant d'empressement qu'il y avait deux genres de vivants, celui des hommes et celui de toutes les autres bêtes prises en bloc. C'est vrai. Oui, et j'ai bien vu alors que détachant une partie, tu pensais que le reste que tu laissais de côté ne formait en tout qu'un seul genre, et cela parce que tu avais un même nom pour les désigner toutes en les appelant bêtes. Là encore, c'est bien ce qui se passait. L'étranger. Or, cela, homme qui surpasse tous les mondes en vaillance, il flatte Socrate au passage. C'est ce que ferait peut-être un autre animal, s'il en existe, doué de réflexion, comme mettons la grue, ou toute autre espèce du genre. Elle attribuerait probablement les noms comme tu le fais, en prenant d'abord un seul et même genre, celui de la grue, pour l'opposer aux autres vivants et pour se glorifier elle-même. Elle rejetterait en bloc le reste, y compris les hommes, pour lesquels elle n'utiliserait probablement aucun autre nom que celui de bête. Nous devons donc nous efforcer de bien nous prévenir de toutes les erreurs de ce type. Donc, d'un côté, il y a la grue, et de l'autre côté, tous les autres vivants. Donc, il y a deux parties, il y a bien deux parties, une division opérée par le langage, grue et vivant, nommé bête, y compris les hommes, les tigres, les insectes, etc. Et le problème, c'est que ces deux parties ne correspondent pas à deux genres, à deux espèces d'êtres. Donc, nous devons nous efforcer de bien nous prévenir de toutes les erreurs de ce type. Comment ? Pour y être moins exposés, nous nous garderons d'effectuer une division sur la totalité du genre vivant. Rien, en effet, n'oblige à le faire. C'est pourtant bien de cette manière que nous avons commis notre faute. Quoi donc ? Nous avons, je pense, rangé toute la partie directive de la science cognitive sous le genre élevage de vivants, des vivants en troupeau, n'est-ce pas ? Oui. C'était alors, par le fait même, diviser tout le genre des vivants en apprivoisés et en sauvages. Car les vivants qui sont d'un naturel à se laisser apprivoiser sont qualifiés d'apprivoisés, alors que ceux dont ce n'est pas la nature sont qualifiés de sauvages. Bien. Oui, mais la science que nous poursuivons était et reste celle qui a pour domaine les animaux apprivoisés. Et c'est assurément du côté des animaux élevés en troupeau qu'il faut la chercher. Oui. Gardons-nous donc de diviser comme nous l'avons alors fait, en envisageant l'ensemble et en nous hâtant pour arriver plus vite à la politique. Car cela nous a valu d'être victimes à l'instant de l'accident dont parle le proverbe, lequel « À trop se bousculer, on aboutit plus lentement. » À faire une bonne division, quoi, et pas des mauvaises divisions. Résultat bien mérité, certes, étranger. Tenons-nous-le pour dit, essayons, reprenant du début, d'effectuer une division dans l'élevage de groupe, car peut-être que ce que tu cherches avec tant d'empressement te sera révélé par la progression même de la discussion à ce propos. Dis-moi, on en reste là. Donc, je rappelle qu'au bout du compte, où l'étranger en arrive, c'est que grec et barbare, ça ne tient pas. Ça ne tient pas deux secondes. Donc, cette leçon est absolument magistrale, non seulement par rapport à notre sujet de l'étranger. C'est-à-dire que l'exemple de la grue montre quoi, en fait ? Montre que toutes ces divisions que l'on fait couramment sont victimes d'un ethnocentrisme, d'un athénocentrisme, d'un européanocentrisme, d'un égocentrisme. C'est-à-dire qu'on se prend soi, on prend le « nous », l'entre-soi, comme un genre qui divise en se séparant de tous les autres. Mais c'est une erreur de perspective. C'est une erreur de point de vue. Et le problème, c'est que toute la connaissance, tout le savoir est guetté à chaque pas par cette autocentration, cet ethnocentrisme, cet égocentrisme. Constamment. Et c'est le problème de la philosophie, c'est le problème de la science, de savoir de quel point de vue on parle. Et si l'on n'interroge pas le point de vue d'où l'on parle, on risque bien de procéder par le langage qu'on utilise à des divisions arbitraires, des divisions totalement arbitraires. Donc la grue qui se dit « moi je suis la grue » et puis il y a tous les autres. Nous on est les Français et puis il y a tous les autres. tous les autres qui sont les étrangers. Du coup, les étrangers, c'est aussi bien les Africains, les Libyens, les Syriens, les Asiatiques. Et c'est marrant parce que les Asiatiques nous reprochent souvent d'ailleurs de les globaliser, alors qu'ils rigolent parce qu'ils disent qu'ils ne distinguent pas plus, de leur point de vue, un Suédois d'un Espagnol. Donc penser, c'est faire le pas de côté, qui remet en cause les divisions toutes faites du langage, qui au fond, ces fausses divisions sont fausses parce qu'elles le partent de soi. Est-ce qu'on peut ne pas partir de soi? Eh bien, c'est ça la question. Alors, je dirais non, et pourtant oui. Non, parce que forcément, on part de ce qu'on est fait, de ce qu'il y a dans sa tête. Mais précisément, la philosophie, enfin la pensée, commence quand on fait l'effort de créer une distance, fût-elle la plus petite, entre soi et soi, entre moi et soi, entre le moi énonciateur d'un langage, d'un discours plutôt, et soi. Et ça, cette opération est nécessaire. On ne s'y efforce pas, on ne tient que des discours tout faits, et en réalité, c'est ça l'ironie de l'histoire. Les gens qui disent « je » à tout bout de champ, pensant que leur discours n'émane que de soi, que d'eux, c'est les gens qui sont les plus perroqués. C'est qu'en fait, ils pensent parler au « je » et ils ne font que parler au « on » indifférencié, le « on » de la doxa. Mais « moi je », il y a de l'autre dedans. Donc le « moi je », il est d'emblée, ontologiquement, éclaté, divisé. Et c'est toute la leçon, là c'est l'étranger, mais de Socrate. Quand Socrate dit toujours, c'est l'autre, le daimon qui parle en moi. Le daimon, c'est cet autre du jeu est un autre. Socrate dit fréquemment ça. C'est mon daimon qu'on peut traduire s'il n'y avait pas une connotation désormais trop chrétienne, mais d'une formule que j'aime beaucoup, l'ange gardien, son ange gardien. Cette espèce d'autre qui est là et qui est constamment dans un dialogue intérieur avec soi, qui nous interpelle en permanence. Mais si on est honnête, on ne fait que ça avec soi-même. Quand on s'interroge, on se dit « Mais quelle connerie que j'ai faite » ou « Qu'est-ce que j'ai pas dit comme connerie ?» Ça va pas du tout. Ou « Faut que je me foute un coup de pied au cul. » C'est ça qui fait le sujet. C'est pas le moi homogène et unifié. Ce qui fait le sujet, c'est moi et le coup de pied au cul que me file l'autre. Et c'est que comme ça qu'on est en mouvement. Qu'on est vivant, donc. Mais si on est tellement sûr de soi, on risque pas de le reconnaître. Si on est tellement blindé dans sa certitude de soi, ou du nous, parce que au niveau collectif, c'est le même problème. Hein. D'où l'interrogation, qui est nous aujourd'hui? Et d'ailleurs, il y a une belle expression de sagesse populaire qui est très profonde. Qui suis-je pour affirmer cela? Qui suis-je? Ben justement, je pars de moi, j'annonce le « je », mais au fond, suis-je bien sûr de ce jeu qui énonce, de ce qu'il y a derrière ce jeu qui énonce? Et la pensée démarre avec cela. Platon n'est pas idéaliste, c'est un matérialiste du vivant, profondément. Et que ce texte qu'on vient de lire en est la preuve. En est la preuve, c'est-à-dire que constamment, il dit, faut remettre sur la table les catégories de langage qu'on utilise et qui divisent. Penser, c'est diviser, mais constamment, il faut réinterroger nos divisions, c'est-à-dire les catégories qu'on utilise. Et les mots ne sont jamais que des catégorisations qu'on fait. Et la science, même la science dure, c'est pour ça, arrêtons avec l'apologie de la science dure aujourd'hui, parce que la science dure n'a jamais procédé que par division. Il y a un exemple que j'ai découvert, on m'a dit que ça faisait 10 ans que ça avait été opéré, avec Pluton, là. Pas Platon, mais Pluton. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a appris à l'école, je pense tous ici autour de la table, selon quoi le système solaire, il y avait combien de planètes, je ne sais même plus, dont Pluton qui était la plus lointaine. Eh ben, c'est faux, c'est totalement faux. Maintenant, les astrophysiciens disent que Platon n'est plus une planète. Pluton n'est plus une planète. Alors, ils disent planète naine. Et alors, ça vient de quoi? C'est que simplement, il y a 10 ans, les physiciens ont décidé de changer la définition des catégories qu'ils avaient établies. Donc, ils ont changé. Donc, c'est une convention. Ils ont décidé que ça s'appelait planète, non plus ce qu'on appelait planète avant, par opposition aux étoiles. Là, il y a une division. Il y a d'un côté les planètes, de l'autre côté les étoiles. Alors, ils ont introduit une autre catégorie, planètes naines. Et pourquoi? Parce que apparemment il y en a d'autres et qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de planètes. Ça faisait trop de planètes après parce qu'il y en avait d'autres. Donc, pour résoudre le problème, comment ils ont fait? Eh bien, ils ont changé la terminologie, le lexique. Ils ont joué sur les mots. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas différent de ce que Platon dénonce chez les sophistes. Les sophistes, ils jouent sur les mots dans leur discours. Mais ça pose un problème. Est-ce qu'on va dire d'un homme nain que c'est pas un homme? Vous voyez que ça pose des questions graves quand on transpose la démarche ailleurs. Donc il y aurait les hommes d'un côté, ça s'appuie les Grecs et les barbares, ça serait les humains d'un côté et les nains de l'autre. Vous voyez à quoi on peut arriver de grave, parce que comme ça paraît gros, caricatural, il n'est pas dit que dans la doxa, ça soit pas si caricatural que ça. Eh bien, c'est la même opération de langage. La même opération de langage de dire, ben non, Platon, on décide que c'est plus une planète, c'est une planète naine, donc ça appartient pas aux planètes du système solaire. C'est pas différent comme opération de langage que de dire, il y a les humains, donc ils restent, mais les nains, on les évacue des humains parce qu'ils sont trop petits. C'est la même opération de langage qui ne correspond pas du tout à l'exigence du rapport le plus exact qu'il soit dans la division entre les mots et les choses. On doit avoir l'exigence de penser autrement que dans le vital. Alors, le problème du vital, c'est que je ferai une distinction entre des philosophies du vivant et des philosophies vitalistes. Les philosophies vitalistes, au fond, c'est le nazisme. C'est le nazisme. Là aussi, division du monde en deux, les Ariens et les autres. Et de façon vitale, l'espèce humaine ne peut être sauvée que si on élimine tous les autres. Ça, c'est le vitalisme. C'est une pensée qui est justifiée par le souci apparemment louable de préserver la vitalité de l'espèce qu'on juge la plus vitale, la plus vivante. La philosophie du vivant, c'est un autre problème. Moi, je suis pour une philosophie du vivant. Au fond, ça rejoint une philosophie matérialiste. Et je pense qu'au vu de ce texte, Platon était dans une philosophie du vivant et non pas, comme on le réduit par tellement d'erreurs de lecture, non pas dans un idéalisme figé et éthéré, quoi. Au ciel, il y aurait les idées et on les ramasserait les unes après les autres qui correspondraient à un mot, une forme définie par un mot. Non. Platon nous dit encore une fois tout le contraire. Il nous dit il faut réinterroger constamment. Penser, c'est diviser. C'est la méthode dialectique, c'est la deiresis. Deiresis, c'est le mot qu'il utilise, c'est la division pour penser. Et donc, c'est mettre des mots, mais ces mots, faut toujours les interroger. Et celui que l'on critique beaucoup aujourd'hui, au point que ça devient un lieu commun de considérer qu'en plus ça désigne les Français, on est cartésien. Donc le brave Descartes que l'on critique est au fond dans l'héritage de Platon complètement. Sa méthode à Descartes, et je ne vois pas d'autre méthode pour penser, c'est la même méthode qu'on vient de lire chez Platon. Il dit il faut diviser un tout en autant de parties distinctes que l'on va nommer distinctement, qu'il est possible de le faire, quoi. Là, vous avez vu le passage vers la fin, c'est ce que dit l'étranger de Platon, hein. Et la science, dans ce qu'elle a de noble, consiste à toujours s'interroger sur les divisions qu'elle a pratiquées. Si on introduit la dialectique dans l'affaire, alors c'est là-dessus qu'on peut reprocher à Descartes d'avoir un peu mis de côté la dialectique, c'est-à-dire le mouvement même. La division ne s'entend que pour unifier ce qui est unifiable. Plus, on ne va pas reprocher à Platon de perdre de vue le tout, vu que, au bout du compte, il est obsédé par l'un-tout. Mais c'est vrai que dans la diplomatie, c'est comme ça que les négociations peuvent aboutir. C'est intéressant de l'observer, parce que c'est un travail sur le langage, hein. Et je pense que l'accord avec les Iraniens sur le nucléaire a été possible. Parce que précisément, c'est cette méthode, c'est pour ça que ça a duré si longtemps, cette méthode qui a été utilisée. De même par rapport à la Grèce, c'est pour ça que je pense que Tsipras est un grand homme politique, parce qu'il a su mener ça et aboutir à un accord qui était nécessaire. Il n'y a pas un économiste sérieux qui dise que l'accord est rien, est une impasse. Mais le problème n'était pas là. Le problème était de maintenir l'unité de l'Europe et la Grèce comme partie dans l'unité de l'Europe. Alors, c'est jamais gagné, mais c'est une étape. Bon, je propose qu'on en reste là. Eh bien, ce texte-là du politique, il faut vraiment le lire et le relire. C'est pour moi un texte essentiel, quoi. C'est la pointe la plus avancée ou la hauteur la plus élevée de la pensée, quoi.